France Inter. Le 7-10.
Et Léa, ce matin, vous recevez un grand réalisateur.
Bonjour Jean-Marie Poiret.
1m86.
Ouais, 1m86, c'est pas mal, c'est pas mal. Si vous étiez une époque, un personnage historique, une voiture de collection et un défaut, tout ça à la fois. Alors une époque d'abord, vous seriez quoi ?
Oh, la Renaissance. C'est-à-dire que vraiment, François Ier, voilà, c'est l'homme que j'admire beaucoup parce qu'il aimait les artistes. Il a ramené Vinci quand même, c'est pas zéro.
Non, c'est pas zéro.
Et c'est horrible à dire ce que je vais dire. Les gens vont être scandalisés. Mais il a mis la fin au Moyen-Âge, alors que moi, j'ai fait fortune avec le Moyen-Âge.
Ah bah oui. Mais en fait, pourtant...
C'est lui qui a niqué le Moyen-Âge, et donc... mais enfin bon, c'était mieux quand même.
Alors si vous prenez un personnage historique, c'est lui ? C'est François Ier ? Ou un autre ?
Oh, je crois que ma plus grande admiration pour un homme qui ne serait d'ailleurs aujourd'hui même pas élu, je pense que c'est Churchill.
Ouais.
Parce que Churchill est la seule personne qui nous ait sauvé d'Hitler. Tout le monde voulait laisser tomber, y compris tous les Anglais, les Américains, tout le monde. Donc on serait aujourd'hui très emmerdés.
Une voiture de collection ?
Ah, une. J'ai voulu en acheter une, puis après on m'a dit le prix. J'ai dit merci, je m'en vais. C'était une Delahaye.
Ah. Et enfin un défaut. Si vous étiez un défaut, Jean-Marie Poiret ?
Oh, c'est compliqué, mais j'en ai tellement. Ouais. Je suis une putain, la putasserie.
La putasserie.
Oui, j'ai...
Parce qu'une putain, c'est pas un défaut.
Non. Putain, c'est plutôt sympathique.
Bah oui. Bon,
j'aime bien les putains, moi. Mais voilà.
La putasserie.
Oui, enfin, ou la lâcheté, c'est-à-dire que je ne suis pas. Je suis très courageux dans le travail. Je peux, si je suis acculé, être très combatif, mais dans l'ensemble, je...
Vous êtes lâche.
Oui, je suis très lâche. je suis très lâche.
Bah écoutez, pour une fois qu'on a un invité qui ose un vrai défaut, parce que...
Normalement, c'est la gourmandise.
La gourmandise ou l'impatience.
L'impatience. Voyez ce que
la gourmandise, c'est pas un défaut.
Pas du tout.
La gourmandise, c'est une qualité.
Oui.
Non, mais je suis très lâche. C'est-à-dire que je me défile... J'ai vécu avec 3 personnes en même temps parce que je n'arrivais pas à dire ce que je voulais faire. Non. Donc,
Vous n'êtes pas obligé d'aller si loin.
Voilà.
En matière de cinéma, il n'y a que des péchés et le péché capital, c'est l'ennui.
C'est une phrase de Capra. Et c'était d'ailleurs la devise de mon papa, qui était producteur de films.
Votre père, Alain Poiret, c'est le producteur mythique de la Gaumont.
Oui.
Sans doute le plus grand, peut-être, producteur français de tous les temps.
Et peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit pas le plus grand producteur du monde, parce que il a fait 500 millions de spectateurs. J'ai fait le calcul. Il y a 500 millions de spectateurs, c'est beaucoup. Hein.
Vivre vite, surtout ne pas s'ennuyer. Vivre vite, filmer vite, écrire vite. Des scènes, des vannes, des émotions, ça a été toute votre vie, Jean-Marie Poiret. Vous dites, rien ne vaut être caché dans une salle de cinéma et entendre 1000 personnes plier de rire devant votre film. Vous incarnez à vous seul 60 ans de cinéma français. Jacouille la Fripouille, Béa de Montmirail, dans Les Visiteurs, c'est vous. Zézette, dans Le Père Noël est une ordure, c'est encore vous. Papy fait de la Résistance, le film préféré de Patrick Modiano, ou L'Opération Cornet de Bif, c'est encore vous. Vous êtes le réalisateur aux 40 millions d'entrées avec vos comédies populaires à la française. Vous avez aussi été scénariste des films de Michel Audiard. Vous êtes le fils donc du producteur mythique de la Gaumont, Alain Poiret. Et vous sortez vos mémoires, votre autobiographie très personnelle, très drôle, très cash, bourrée d'anecdotes assez folles, de portraits savoureux d'acteurs que vous avez aimés et de pas mal de coups de griffe pour les autres. Ça s'appelle « Rire est une fête » chez Michel Lafon. Pourquoi, alors que vous disiez « Jamais au grand jamais j'écrirai mes mémoires », vous vous êtes laissé convaincre par cette idée ?
En fait, c'est pas vraiment une autobiographie. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de raconter sa vie, honnêtement, à part si on est un héros. Mais parce que dans les dîners, je veux dire, j'ai quand même pas mal d'heures de vol et donc j'ai fait beaucoup de dîners. Dans les dîners, on vous invite pour que vous fassiez vous amuser à la galerie. Et donc, quand je voyais des gens pliés de rire. Parce que je racontais une anecdote sur un film ou sur un personnage. Ça m'arrivait en partant. J'ai une collection absolument, je ne sais même pas où les foutre, de petits je fais pas de la pub, enfin c'est des petits Moleskine, des petits calepins. Donc je
disais, vous notez.
Je dis ça, ça fait marrer, c'est marrant, etc. Et puis les gens me disaient toujours, mais il faut écrire vos souvenirs. Et puis je me suis trouvé avec une période d'inactivité, en dehors du fait que je suis devenu peintre et que maintenant je fais des tableaux, mais parce qu'il faut bien s'occuper, que on ne propose pas des films tous les jours. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire ça, surtout avant d'oublier, parce qu'il y a aussi un âge où on va se mettre à tout oublier. Alors, tant que je peux me souvenir...
Et quel souvenir ? Votre livre s'ouvre d'abord sur un vent, un râteau que vous met cette femme.
Monsieur, il part avec votre poncho ! Là, c'est les serpillères !
C'est le râteau que vous met Valérie Lemercier pour Les Visiteurs 2. Vous l'invitez à déjeuner à la Closerie des Lilas pour tenter de la convaincre après les 14 millions d'entrées des Visiteurs. On rappelle que c'est le film le plus vu après La Grande Vadrouille pour l'époque. Vous tentez de la convaincre de faire le 2. Vous le donnez tout. Vous utilisez tous les arguments. Elle vous dit oui, puis elle vous dit non, puis elle vous dit oui, puis elle vous dit non. Puis elle vous dit oui, c'est sûr, ok, je fais le 2. Et ensuite, elle descend aux toilettes, elle remonte. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Ben, elle dit finalement non. Et je pensais qu'elle allait changer d'avis. Et ça m'a fait... J'étais... D'abord, c'était un accident industriel aussi, parce que je suis producteur des Visiteurs. Et que les décideurs sont très, très durs. Le cinéma, ce sont des affaires. Donc, vous arrivez, il n'y a plus Valérie Lemercier. On vous dit, ah ben, il dit non, mais alors, on ne donne plus ce qu'on devait te donner.
Bon. Donc, c'est un drame pour vous.
C'est un drame pour moi. Et je propose, par exemple, une actrice comme Sabine Azéma, que je trouve une actrice géniale. Bon.
On vous répond non.
On me répond,
tu n'y penses pas.
Mais c'est n'importe quoi. Tout le monde.
Valérie Lemercier vous dit non. Pourquoi ? Vous écrivez parce qu'elle s'est mal entendue avec les deux autres stars du film, Christian Clavier et Jean Reno.
Alors maintenant, c'est compliqué parce que je ne sais pas si les mémoires, c'est pas souvent complètement faux. C'est-à-dire que parce que je lis dans les journaux, comme en ce moment, on parle de mon livre, je lis des espèces de d'articles qui sortent avec Valérie Mercier interviewée qui dit mais Jean-Marie Poiré aussi a été odieux.
Ah oui.
Alors bon, donc vraiment, ça me colle un doute. J'ai dit peut-être j'ai été odieux. Je ne crois pas. Elle dit, il disait. Tu n'étais pas drôle. Je n'y crois pas, c'est pas du tout le genre de choses que je pourrais dire. Je dirais jamais à un acteur, tu n'es pas drôle.
Mais en tout cas, vous racontez ce qui est assez incroyable pour elle, pour vous, c'est que Valérie Lemercier, qui donc joue ce personnage absolument génial de Béatrice de Montmirail, elle va au départ pas tellement comprendre son personnage.
Non.
Et donc, le film est terminé, elle va le voir en montage, et elle décide de tout refaire en post-synchronisation. Oui. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux auditeurs que tout ce qu'on entend des Visiteurs de Lemercier, c'est pas ce qu'elle a prononcé en live au moment du tournage.
Vous avez gardé
quelques-unes. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle se voit et elle dit « mais je suis pas drôle ». Et elle refait tout en accentuant les « ah », les
«
oui », les machins, pour avoir cette question snob qui a été géniale.
Elle a découvert le film. Les post-synchro, ce sont des choses qu'on fait en studio pour corriger les... Parce que quand on enregistre des films, il y a des bruits de voiture, il y a un marteau-piqueur, il y a des trucs comme ça, donc c'est pas audible. Donc on refait des parties du dialogue. Et c'est très compliqué, c'est très cher. Il faut marquer le texte pour que les acteurs le lisent, etc. Et elle voit le film et brusquement, elle est authentiquement, je dis pas épatée, mais elle dit ah c'est très drôle, et je voyais pas ça comme ça. Mais elle me dit mais j'ai tout raté, il faut que je refasse tout. Et je lui dis tu te fous de moi, je peux pas faire tout, on n'a pas le temps.
Et puis ça... vous la rappelez, vous lui dites.
Et puis après je lui dis mais tant pis, c'est pourquoi. Alors on a refait et elle a amélioré incroyablement.
Franchement les pages sur les Visiteurs, ce que vous racontez sur le producteur Alain Terzian qui veut vous couper les scènes, le ok, il trouvait pas ça drôle, il voulait couper les 20 première minute sur le Moyen-Âge, il disait c'est pas drôle, on coupe, vous insistez, vous montrez aussi comment c'est une bataille perpétuelle pour l'argent, parce que oui, c'est aussi de l'argent, comment personne n'y croyait sauf Clavier et vous, tout le monde vous a dit, même Alain Terzian est venu vous faire l'entièreté des films sur le Moyen-Âge en vous disant, ça n'a été que des fours, le Moyen-Âge ça marche pas, bon ça va être un des plus grands succès du cinéma, et puis alors très drôle, Fabrice Luchini a failli être du casting. C'est-à-dire qu'il avait lu le scénario, il avait adoré, il vous appelle, il vous invite à déjeuner, il vous dit « je veux être dans le film ». Pourquoi ça ne s'est pas fait ?
Mais en plus, il était étourdissant parce que on dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il est quand même assez près de ses sous. Donc, mais enfin, il m'invite à déjeuner. C'est lui qui me dit « je t'invite dans un restaurant étoilé, très cher, très bon ». Et en plein milieu du repas, brutalement, il se met à jouer le film. Et il joue tous les rôles. Il avait appris, son rôle qu'il voulait faire, il voulait faire le mari de Valérie Le Mercier. Mais il se met à jouer clavier, il se met à jouer Béa, il prend une voix de femme, il connaît tout le film par cœur, et il est étourdissant. Parce que je lui disais, Fabrice, j'ai dit, je vous admire comme acteur, mais vous êtes quelqu'un d'extraverti. Le personnage est un timide introverti, c'est pas du tout vous. Bon. Et comme ça m'arrive souvent, l'acteur montre qu'il est plus fort que son image et réussit ça. Et donc, à la fin du repas, je lui dis, vous êtes engagé. Et puis, bon, là, il a demandé des sommes que je ne pouvais pas payer. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une industrie. Et en plus, j'avais déjà mon budget. Donc, je disais, mais si je vous paye, si j'appelle et je dis à FR3, Luchini, voilà, il y a Luchini en plus, ils vont faire, on s'en fiche. Donc, j'aurais pas un rond de plus.
Voilà, c'est à peu près ça. Ces mémoires, vous, c'est tout ça. C'est tous ces souvenirs. Avant les visiteurs, il y a
mémoire salope, quelquefois, pour...
Ben oui, ça, je vous le confirme, mais c'est ce qui rend... Ben, au moins, c'est pas chiant. Je peux vous dire, on apprend plein de choses sur le milieu du cinéma. Par exemple, Le Père Noël est une ordure, on est en 82, la bande du Splendide vient d'exploser avec les Bronzés. Clavier, Chazelle, Balasco vous veulent comme réalisateur du Père Noël. Il va falloir convaincre Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte qui ne vous voulaient pas.
Alors, il paraît que ce n'est pas vrai, parce que j'ai eu un texto de Gérard Jugnot, ici, qui me dit, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a lu le papier dans un canard du matin.
Il me dit, non, ce n'est pas vrai, je ne sais pas contre toi.
Et il m'a dit, mais jamais j'ai dit ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai dit, écoute, c'est Clavier qui le dit dans la préface. J'ai dit, moi, je ne suis pas responsable.
Ouais, mais en tout cas, il a fallu les convaincre, vous allez...
Oui, mais en fait, après, il y a eu une entente absolument formidable, c'est vrai. Mais... Donc, vous savez, c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais... Il y a autant de vies, autant de versions, et on ment beaucoup sur les souvenirs. Moi, d'ailleurs, quand je mens, c'est simplement pour être plus drôle.
Ah. Il y a Depardieu. Depardieu qui vous appelle après Les Visiteurs parce qu'il veut absolument tourner avec vous. Ça va donner Les Anges Gardiens avec Christian Clavier. Christian Clavier qui signe la préface de votre livre. Christian Clavier qui est on le devine, qui est la grande rencontre professionnelle de votre vie. Peut-être avec Josiane Balasco qui est un peu comme votre sœur, mais il y a de très belles pages sur eux. Depardieu, les pages sur Depardieu sont intéressantes parce que vous dites qu'il est monstrueux dans tous les sens du terme. Monstrueusement éblouissant, génial et sensible comme acteur, mais aussi un monstre avec la bouffe, l'alcool, l'argent, les femmes et les autocrates. Il y a deux Depardieu, comme le dit
il est tout,
Raphaël Baquet et Samuel Blumenfeld dans leur bouquin.
Oui, je crois qu'il est plus, quand même plus amusant que l'homme qu'ils décrivent. Parce que moi, je me suis quand même énormément... parce qu'il y a une chose que personne... aujourd'hui, il est un petit peu au banc de la société, alors que c'est un des hommes les plus charmants qui soit. Et en plus, c'est un homme très charmant, parce que c'est un homme incroyablement féminin. C'est-à-dire que quand... j'ai une grosse bourrue, alors bon, je ne rentre pas dans les trucs. Il a la maladie de la Tourette, hein, ça c'est une évidence. Il avait déjà la maladie de la Tourette.
Il dit des grossièretés
sans arrêt, des obscénités. Tout le temps, bon, c'est pas très grave, moi ça me dérange pas, les obscénités m'amuseraient plutôt, bon. Mais c'est quelqu'un d'une sensibilité incroyable, donc si on dit attention, là tu me fais mal, il se transforme en môme de 8 ans, et je le trouve absolument touchant et adorable.
Et en même temps, il est double. Et
d'ailleurs, je l'ai filmé comme ça parce que j'ai gardé à la fin des Anges Gardiens un moment où il s'assied sur un masque d'enfant et qui est tombé, et il fait une petite mimique qu'on a quand on est gosse et qu'on a fait une bêtise.
Et vous l'avez gardé. Il y a encore 1000 souvenirs dans votre livre, j'aimerais parler de tous. Je vais parler d'un mot du tournage des Meilleurs Copains avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin et Jean-Pierre Bacri, qui vont vous donner des sueurs froides, vous raconter le problème, c'était le pétard. Quand tu rentrais dans l'horloge, t'étais déjà défoncé. Le pétard dont vous avez abusé jeune, vous dites, ça rend cool et con. La cocaïne aussi, il y a des pages sur la drogue. Vous dites, la cocaïne, je n'aime pas trop cette drogue qui vous rend vite paranoïaque et imbuvable, mais c'est vrai que c'est un remède à la timidité. Ça vous a aidé à un moment de votre vie. Et puis, il y a ces très belles pages sur Jean-Pierre Bacri, qui joue un homosexuel dans le film. Vous dites, il avait du mal à jouer un homosexuel, et à un moment, devant tout le monde, vous l'engueulez ultra-violemment devant tout le monde sur le set, sur le tournage. Et ensuite, vous voulez vous excuser, puis le temps passe, vous vous excusez pas, il va être très malheureux de ça. Et quelques mois avant sa mort, dans une émission de télé, vous vous réconciliez avec Bacri.
Bah, c'était ça que j'ai... J'ai profité de ça. D'ailleurs, je vous parlais de lâcheté, c'était quand même un peu par lâcheté, parce que je suis resté avec un arrière-goût désagréable de cette... Parce que je trouvais Bacri un acteur fantastique, un homme très très drôle, et très charmant. Et donc, c'est vrai que plusieurs fois, je me dis, il faudrait que je l'invite à bouffer, il faudrait que j'en parle. Et puis, tout à coup, il y a une télévision qui me téléphone pour me dire, oui, on fait un JT sur Bacri, et on aimerait bien avoir vos sentiments, on va parler. Et ils me font une interview de 2h10. Donc je me dis, il se fout de ma gueule. Dans un JT, on a le droit à 20 secondes. Donc ils veulent. Et tout à coup, ils me font, ah, mais il n'y a pas eu une histoire de bagarre, etc. Et ce qui m'a bouleversé, c'est que quand ils ont dit, parce que j'ai vu le JT, c'est qu'ils ont dit à Jean-Pierre, ah, il y a un metteur en scène qui va parler de vous. C'est Jean-Marie Poiret, et il fait une tête épouvantable, et il fait... Ah oui, je sais ce qu'il va dire. Bon. Et moi, j'ai profité de cette... je m'excuse, je demande pardon à Bacri, j'étais producteur de ce film, stressé, il était tard la nuit, j'étais un con, j'aurais dû lui parler...
Et il a les larmes aux yeux,
Et j'ai cru qu'il allait pleurer. Et honnêtement, je vais vous dire pourquoi je suis ravi de ça, c'est parce qu'il est mort peu de temps après, et j'aurais été désespéré qu'il meure et que j'ai pas pu lui dire que je l'aimais, quoi. Il faut toujours dire aux gens qu'on les aime parce qu'ils peuvent disparaître très vite.
Alors, j'aurais eu encore 1000 questions à vous poser parce que c'est vrai que vous avez 1000 vies. Vous avez eu 1000 vies. Vous racontez vos dîners avec Gilles Deleuze. Vous racontez quand vous croisez Jim Morrison, obèse et ivre. Jean-Michel Basquiat, défoncé et hagard. Il y a aussi des pages sur Michel Audiard qui va vous mettre le pied à l'étrier. Comment vous écrivez les films avec lui. Il y a des pages sur Gérard Houry qui va aussi vous faire écrire La Grande Vadrouille. Louis de Funès qui attendait vos rires, Jean-Marie Poiret, pour savoir que la scène était réussie dans Oscar. Vous dites que c'est le plus grand acteur du monde. Il y a 1000 questions. Il y a les échecs aussi. Le fait que vous ne tournez plus là maintenant. Il y a l'échec des visiteurs aux États-Unis. Mais bon, il nous reste 1 minute. Vous allez répondre en un mot. Je fais les impromptus très rapidement. Et ensuite, les auditeurs achèteront votre livre. Le plus grand président de la Ve République à vos yeux.
De la Ve République j'aime beaucoup. De Gaulle d'abord, mais et peut-être Pompidou, qui était quand même un homme qui aimait beaucoup les arts et qui était...
L'argent fait-il le bonheur ?
Non, l'argent est indispensable pour le bonheur, mais par contre, il faut plus.
Louis de Funès ou Christian Clavier ?
Ils sont trop différents. Et d'ailleurs, je déteste quand on dit que Christian Clavier est copie de Funès, c'est absolument le contraire.
Michel ou Jacques Audiard ?
Oh, les deux sont très sympathiques. Et Jacques a l'intelligence de se démarquer de son père et de faire un travail formidable. C'est un metteur en scène extraordinaire.
Paris ou Bruxelles ?
J'habite Bruxelles, donc je préfère beaucoup Bruxelles, je vous le dis tout de suite.
Duras ou Sagan ?
Ah,
il y a des pages sur Françoise Sagan où vous éclatez avec
Sagan
elle.
Sagan était tellement drôle. Et Duras, c'était pas très drôle.
Les frères Toledano ou la bande à Fifi ?
Oh, les frères Toledano.
Télérama ou Le Parisien ?
Ah, Télérama m'a toujours massacré la gueule à coups de pied dans la figure. Donc, c'est quoi l'autre ?
Le Parisien.
Ah, je lis pas beaucoup.
Vous lisez quel journal ?
Je lis pas le journal du tout.
Est-ce que vous avez imaginé votre épitaphe ?
C'est quoi l'épitaphe ?
Ce qu'on met à la mort.
J'ai plus qu'à avait dit. Je vous avais dit que j'étais très malade. Bon.
Et Dieu dans tout ça, Jean-Marie Poiret.
Lequel ?
Ouais. Est-ce que vous savez ce qui sera diffusé sur France 2 dimanche soir ? Papy fait de la résistance.
Ah, génial.
Ouais.
Mais j'ai l'impression qu'ils ont appris que mon bouquin sorte, ils sortent tous mes films en même temps. C'est marrant.
Le bouquin s'appelle Rire est une fête, mémoire cache d'un réalisateur culte, c'est chez Michel Lafon.
C'est des rapaces quand même, en fait, vous voyez, en fait, ouais. Quand on parle d'industrie.
Ouais.
Mais il sort son bouquin, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On sort celui-là.
Allez, on sort
Papy. On l'a acheté une fortune, mets-le.
Merci Jean-Marie Poiret, très belle journée.
C'est moi qui vous remercie, vous êtes adorable.